Chapitre 29. Touchons-nous au dénouement. Jeannette était à se promener dans le jardin avec sa mère. La soirée était fraîche et magnifique. Les fleurs, flétries naguère par la chaleur du jour, se redressaient sur leurs tiges, rafraîchies par une douce rosée. Elles ouvraient leurs calices et parfumaient les airs de mille odeurs délicieuses. La lune, dans son plein, réfléchissait son disque dans l'eau du canal, et le rossignol, perché sur un arbre du bosquet, réjouissait la nature par ses concerts mélodieux. Jeannette était gaie, tranquille, elle s'entretenait avec sa mère du prochain retour de Bricheval qu'on attendait de jour en jour, et ses deux amies ne pensaient point à goûter le sommeil auquel le petit Auguste était livré depuis plusieurs heures, lorsqu'on entendit aboyer le chien de la basse-cour. « Qu'est-ce là ? » dit Madame d'Héricourt. « On sonne à la porte de la rue. À cette heure, qui vient nous visiter ? Le jardinier ne va pas ouvrir, il est couché, mais sa vieille femme encore... Ah, l'on ouvre, allons voir. Mais qui court vers nous avec tant d'impétuosité ?» « Dans le jardin !» s'écrie une voix. « J'y vais !»« Madame, madame, madame de Bricheval !»« Me voilà, qui est-ce »« C'est Émilie, c'est moi. Venez donc, bonne nouvelle, je vous amène nombreuses compagnies. »« Qui donc ?»« Cécile, votre amie, Cécile que j'ai retrouvée. »« Est-il possible ? Où est-elle ?»« La voilà !» Cécile suivait en effet Émilie, qu'on avait envoyée devant pour prévenir doucement Jeannette, mais qu'il avait fait assez brusquement, comme on vient de le voir. Cécile et Jeannette sont dans les bras l'une de l'autre, leurs visages, leurs mains sont inondés des larmes de la sensibilité. Elles ne peuvent parler, elles se serrent étroitement, et c'est Madame d'Héricourt qui est obligée de recevoir Madame d'Olmont et son frère, que Jeannette n'a pas eu le temps de remarquer. « Oh, mon ami, c'est toi, c'est vous !» Voilà ce que Cécile et Jeannette font entendre, et leur étreinte est si forte qu'on est obligé de les séparer dans la crainte que leur santé ne souffre de cette touchante expansion. Jeannette alors aperçoit M. de Verneuil avec une dame qui lui est inconnue. Jeannette les salue avec affection, mais elle revient à Cécile et ses deux amis marchent en se serrant encore jusqu'au salon où Madame d'Héricourt fait entrer la compagnie. Jeannette fait mille questions à Cécile qui, sans lui répondre, l'interroge à son tour. « Point de questions ce soir !» s'écrie Madame d'Héricourt. « Point d'explication, ma fille. Songeons à faire souper ces dames et à les envoyer coucher car elles ont voyagé. » La défense de Madame d'Héricourt est observée difficilement, mais cette bonne mère généralise à dessein la conversation et tous ne s'entretiennent plus que du bonheur de se revoir. Il est décidé que le lendemain, au déjeuner, chacun raconterait ses aventures et l'on sert le souper. « Mademoiselle d'Héranville, dit Madame d'Héricourt, quelle obligation ne vous ai-je pas à vous et à votre généreuse famille pour m'avoir conservé mon enfant ? Ce jour est bien doux pour moi, où je vois, où j'embrasse la bienfaitrice de ma fille. « Ah, madame, répond Cécile, ne parlez pas de bienfaits. Le cœur de Jeannette méritait des amis plus heureux. « Pouvez-vous encore penser au malheur ? Interrompit Jeannette, quand nous nous retrouvons, mademoiselle. Plus d'infortune qui puisse nous atteindre. Je défie le sort barbare de vous persécuter de nouveau. « Madame, répond Cécile à voix basse, vous seule savez ce qui manquera toujours à mes vœux. J'entends, j'entends. Point de nouvelles toujours du père, ni du fils. Aucune, madame. Pardon. Laissons mes douleurs secrètes et ne pensons qu'au plaisir que j'éprouve de vous revoir. Mademoiselle, une chose trouble néanmoins ce plaisir, de mon côté du moins. Autrefois, vous aviez la bonté de me tutoyer, j'étais votre bonne Jeannette. « Madame de Bricheval a-t-elle perdu ses droits à ce langage touchant ?»« Madame, les temps sont bien changés. »« Mais nos cœurs ne le sont pas. Parlez-moi donc comme autrefois. J'aurais trop perdu à mon changement d'état. »« Souffrez, mon ami, que je sache ce que je dois à vous ainsi qu'à moi. Vous me désobligeriez d'insister davantage. »« appelez-moi donc au moins votre chère Jeannette. » « Eh bien, soit, ma chère Jeannette. Ah, quelles obligations nous avons toutes deux à cette bonne Émilie et à ce digne ami qui nous a tout enlevé de Paris sans nous laisser le temps de respirer. Monsieur de Verneuil ne laisse plus de borne à ma reconnaissance. » « Ah, madame !» dit de Verneuil en soupirant. « Mais où est donc monsieur votre époux ?»« Mon mari est absent depuis un an, mais je l'attends ces jours-ci. Je serais bien flattée qu'il vous vit. »« Madame !» Monsieur de Verneuil soupira encore, et Cécile comprit que la vue de monsieur de Briseval était ce qu'il ambitionnait le moins. Le reste de la soirée se passa ainsi en 12 entretiens, et chacun fut se livrer à un sommeil utile après les longues fatigues du corps et les commotions que le cœur avait essuyées dans la journée. Le lendemain matin, Jeannette, qui avait fait coucher Cécile dans sa chambre, près d'elle, s'aperçut qu'elle ne dormait point. « Vous n'avez pas reposé, mon ami, » lui dit-elle avec chagrin. « Très peu, mon ami. Je ne sais pourquoi l'image de Saint-Ange a troublé mon sommeil pendant toute cette nuit. Ainsi, point d'espoir de rencontrer cet amant chéri. Ah, Jeannette, peut-être n'existe-t-il plus. Mais mon fils, qui me le rendra ? Mademoiselle, les jeux du hasard sont si singuliers, si inexplicables. Voyez, je désespérais du bonheur de vous revoir, et un seul jour a suffi pour vous rendre ma tendresse. Espérez, mademoiselle, j'ai dans l'idée que Saint-Ange vous sera rendu. » Jeannette ne croyait pas si bien lire dans l'avenir, comme on le verra par la suite. Cécile et son amie descendirent au salon, où le reste de la compagnie était déjà rassemblé. On déjeuna. Puis Jeannette raconta tout ce qui lui était arrivé depuis sa séparation de Cécile. Les circonstances de son hymen avec Briseval parurent affecter beaucoup M. de Verneuil et Cécile s'aperçut aisément de son trouble. Il fut question ensuite d'entendre l'histoire de Cécile et de savoir pourquoi toutes les recherches que Jeannette avait faites d'elle n'avaient abouti à rien. Cécile, que le souvenir de ses malheurs affligeait trop sensiblement, pria M. de Verneuil de s'en charger, ce qu'il accepta. Mais Cécile, pendant ce récit douloureux, fut se promener au jardin avec Émilie, dont cette promenade contraria un peu la curiosité. Cela donna à M. de Verneuil la liberté de parler de Cécile sans réserve, ce qu'il fit en peu de mots. « Le jour même de votre départ de Paris, madame de Briseval, un de mes amis m'offrit l'occasion d'une voiture pour aller en Bretagne, où je voulais réclamer, d'après nos nouvelles lois, les biens que mes frères s'étaient partagés à mon détriment. Je fus donc, vers 2 heures après-midi, faire mes adieux à mademoiselle d'Héranville, que je trouvais baignée dans les pleurs. C'était votre séparation du matin qui les faisait couler. Je lui témoignai le regret que j'éprouvais de l'abandonner à mon tour dans un moment si critique, et je partis. Le soir même, madame Aubry, la propriétaire de sa maison, monte chez elle tout effrayée. « Ah, mon enfant !» lui dit-elle, « sauvez-vous, on vous cherche !»« Qui, moi ?»« Vous, mademoiselle d'Ascourt, c'est bien vous !»« On se trompe, je n'ai rien qui puisse m'exposer !»« Vous ne voulez pas vous sauver, vous avez tort, car les voilà !» En effet, des gens de justice entrent en foule. Un exemple montre à Cécile l'ordre de l'arrêter, et malgré les cris, les gémissements de cet infortuné, ils ont la cruauté de l'arracher des bras de son hôtesse effrayée. On la met dans une voiture, et la voilà qui voyage sans savoir où elle va. Elle passe ainsi 4 jours et 4 nuits en route, sans prendre d'autre nourriture que le peu d'aliments grossiers qu'on lui offre comme à une criminelle. Et, arrivée enfin dans la ville de Rennes, on la plonge dans une étroite prison, sans lui dire les griefs qu'on lui reproche. On l'interroge, et le crime dont on l'accuse est si neuf à ses yeux qu'elle voit clairement qu'elle n'est prisonnière que pour le nom de Dascourt qu'elle a pris. Une femme nommée Dascourt était compromise en effet dans une vaste conspiration. On la croyait cachée à Paris, et la ressemblance de nom avait causé le malheur de Cécile. Vous devinez bien que Cécile n'eut pas de peine à prouver qu'elle n'était pas la grande coupable qu'on croyait tenir. Mais il lui fallut déclarer son véritable nom, et cela parut suspect. Pourquoi avait-elle changé de nom? Quel était son motif? En vain, Cécile s'excusa-t-elle sur l'éclat répandu autrefois sur ce nom brillant, éclat que ternissait son indigence et la nécessité de travailler pour le public. Cela ne parut point satisfaisant, et ce ne fut plus comme conspiratrice, mais comme suspecte, que la pauvre Cécile fut réintégrée dans les prisons. Elle y resta près d'un an, l'infortunée, au secret, et sans pouvoir correspondre avec qui que ce fût. Je vous passe les détails de ses souffrances dans sa triste prison pour en venir à sa sortie de ce lieu funeste. J'étais, moi, dans les environs de Rennes, occupé de mes affaires personnelles, lorsque le hasard me conduisit dans le lieu où gémissait votre amie. J'y allais voir un de mes amis qui, depuis, a été reconnu innocent. J'entends parler de mademoiselle d'Héranville, je m'informe, j'apprends que cette estimable demoiselle est détenue. Je cours, j'intercède et je parviens à lui faire rendre sa liberté. Vous me permettrez d'abréger le récit des faibles services que je fus alors assez heureux pour lui rendre alors. « Et quoi ? Lui dis-je quand elle fut chez ma sœur, chez madame d'Aulmont que vous voyez ici. Est-il possible, mademoiselle, que vous ayez été la victime d'une ressemblance de nom ? J'ai bien entendu parler du procès d'une femme d'Ascourt. Et c'était vous qu'on prenait pour ce monstre ? Ah, si j'avais su plus tôt ! Mais enfin, nous vous possédons, vous voilà, et j'espère que vous ne nous quitterez plus. » « Et Jeannette, me dit cette femme sensible, car ce fut son premier mot. Et Jeannette, monsieur, a-t-on de ses nouvelles ? Le souvenir de cette amie et l'ignorance de son sort ont été mes seuls délassements et mon unique souffrance dans ma captivité. » Je lui répondis qu'éloigné moi-même de la capitale, je n'avais pu m'instruire du destin de notre amie. « Pardonnez-moi si je me suis servi de cette expression ou je m'honorais de votre amitié. » Enfin, vous voyez, madame, que la première pensée de Cécile, en revoyant le jour, a été pour vous. Ma sœur pria Cécile de rester chez elle en attendant que nous revinssions à Paris, ce qui ne tarda pas, car j'avais heureusement terminé mes affaires. De tous mes frères, de tous mes parents, je n'ai trouvé que cette bonne sœur généreuse, sensible et délicate. Madame d'Aulmont, veuve sans enfant, m'a aidée de ses conseils et de ses actions. Mes deux mauvais sujets de frères ont été contraints de me rendre ma part de l'héritage de notre père et je me suis trouvé à la tête d'une fortune assez raisonnable. Ma sœur a bien voulu me suivre à Paris et nous sommes venus tous nous y fixer. Mais admirez l'effet du malheur sur un cœur tendre comme celui de Cécile. Elle a voulu prendre son particulier et vivre loin de nous. Madame Aubry, comme vous devez le savoir, avait vendu sa maison pour se retirer je ne sais dans quelle province. Cécile fut d'abord désespérée de ne plus retrouver son logement chez cette femme qui seule pouvait lui donner de vos nouvelles. Mais elle fut se loger ailleurs dans un faubourg. Et malgré la peine que nous fît ce procédé injurieux pour l'amitié, il fallut consentir à la voir habiter une espèce de grenier, travaillant les jours et les nuits, refusant toute espèce de don de notre part. Impossible de lui faire accepter le plus léger présent. Cécile, fière et misanthrope, prétendait qu'elle ne devait recevoir que ce que son travail avait mérité. Ma sœur s'est vue forcée d'acheter exprès des dentelles usées pour avoir le plaisir de les lui faire rétablir, et encore, lui donnions-nous ces effets comme appartenant tantôt à une amie, tantôt à une autre, car à la fin, elle aurait deviné notre intention et sa fierté s'en serait trouvée offensée. Voilà comme nous avons vécu jusqu'à présent, voyant tous les jours mademoiselle d'Héranville, qui ne voulait cultiver que nous, la recevant quelquefois chez ma sœur, et prenant tous les jours des détours nouveaux pour lui procurer, non les aisances, mais les premiers besoins de la vie. Cécile avait renoncé à l'espoir de vous retrouver, et moi, madame, je partageais sa douleur, ses regrets, et, j'oserais dire, son amitié pour vous. Jugez de notre joie à tous deux quand Émilie nous a découvert votre asile. J'ose me flatter d'avoir déterminé tout le monde à venir vous importuner. Et si nous avons voulu vous surprendre, si nous avons agi avec tant de licence, c'est à moi seul que vous en devez adresser les reproches. »